Iconic Business, le luxe by BFM Business, Audrey Maubert.
Le luxe s'installe sur BFM Business, un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, c'est Iconic Business. Une adresse mythique, iconique, le Carlton Cannes, 3 ans de travaux et le célèbre palace rouvre ses portes. C'est la renaissance qu'il ne fallait pas louper. Iconic Business y était. On en parle avec Christophe Laure, le directeur régional Europe du Sud Intercontinental Hotel Group dans Iconic Business. De l'art, encore de l'art au Grand Palais éphémère. La foire Art Paris célèbre ses 25 ans. Le rendez-vous de l'art moderne et contemporain, c'est le choix des désirables de la semaine. De l'art, de prendre soin des pièces iconiques, vos sacs iconiques, Collector Square s'installe au bon marché, Eva Jaco a testé, sans oublier l'iconique capsule, tendance et phénomène, les très chics éditions Assouline explore le métaverse. C'est Iconic Business, bienvenue. Iconic Business avec cet invité qui va nous parler de The Old Lady. Parce que The Old Lady reprend vie, l'hôtel Carlton Cannes a rouvert ses portes. Christophe Laure, directeur régional Europe du Sud IAG, groupe opérateur du Carlton Cannes, bonjour.
Bonjour.
C'était la réouverture du mois, de l'année ?
Du siècle.
Du siècle peut-être. Du siècle, c'est 110 ans d'histoire, Alfred Hitchcock, Grace Kelly, entre autres, et un grand, grand lifting.
Oui. Un lift-tip superbe qui a été réalisé durant les 3 dernières années, comme vous l'avez souligné. On avait Tristan Hoer qui a fait le design intérieur et Vinci qui a réalisé les travaux. Ils ont fait un travail extraordinaire.
Titanesque, la discrétion cultivée, le secret sur l'investissement, c'est toujours très bien gardé dans l'hôtellerie. Plusieurs centaines de millions d'euros, certains diront. Dans tous les cas, le plus gros investissement peut-être hôtelier des dernières années en Europe.
Oui.
Sûrement. A priori, sûrement.
Oui.
Bon, Sarah Durand, vous y étiez pour Iconic Business. Un 5 étoiles avec une piscine, un jardin, ça fait partie des éléments qui vous ont marqué d'ailleurs, ce fameux jardin à présent.
Tout à fait, parce qu'en fait, là où il y a le jardin actuellement, en fait, c'était un parking.
Beaucoup moins sympa.
On entreposait les poubelles, etc. Et là, vraiment, c'est un jardin. Il y a 22 000 espèces de plantes et de fleurs différentes dans ce jardin. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, il y a une piscine à débordement, immense piscine qui surplombe le jardin comme ça.
Il a fallu des centaines d'artisans. Un chiffre qui m'a marqué, 52 000 mètres carrés à présent, c'est 20 000 mètres carrés de plus.
Oui, et puis 750 ouvriers sur le site, 100 000 heures de travail avec un travail qui est fait par les ABF, avec des artisans locaux. On a fait travailler Cannes et une partie de sa région pendant toutes ces années. Et c'est vraiment c'est une œuvre d'art, on va dire ça comme ça, parce que tous les endroits ont été pensés différemment et beaucoup de corps de métier étaient présents.
Une nouvelle aile et un penthouse de 500 mètres carrés, une terrasse d'autant. Il s'agissait aussi de monter en gamme, d'avoir de nouvelles prestations pour offrir ce nouveau lieu à Cannes et à la région.
Oui, le Carlton de Cannes, voilà, son nom n'est plus à faire, mais on avait besoin effectivement de faire un positionnement différent, et c'est pour ça qu'on a agrandi les ailes, on a créé ces 37 résidences qui n'existaient pas avant, et donc on crée une destination dans la destination. Et c'était important de positionner l'hôtel ainsi.
Et il s'agit aussi de garder peut-être, pas seulement des voyageurs, des touristes, mais des résidents à présent.
Oui, on est vraiment, encore une fois, dans une destination qui a été recréée pour avoir, bien sûr, nos touristes étrangers et puis recevoir aussi toutes les personnalités durant les 7 festivals que nous avons à Cannes et aussi ces résidences qui permettent d'avoir des personnes qui vivent toute l'année.
C'est davantage ouvert sur la mer, davantage de lumière, du pastel, du beige, de l'ocre. Hein. On retiendra évidemment, Sarah, le travail de l'architecte Richard Lavelle et le décorateur, vous en parliez, avec justement cette ouverture sur la mer et puis une redécouverte peut-être des matières, de l'essence, des matériaux à l'intérieur et notamment dans le lobby.
Oui, quand on rentre dans le lobby, en fait, il y a ces colonnes qui existaient du coup avant la rénovation. Et ces colonnes, elles étaient recouvertes de 8 couches de peinture.
On a voulu tout camoufler, et finalement...
Exactement, et en grattant ces couches de peinture, c'est un peu arrivé comme ça, en fait. C'est ce que me disait l'architecte. En fait, ils ont découvert ce marbre et ils l'ont gardé.
Ils l'ont gardé et je suis sûre que ça va même faire partie de l'identité à présent de l'hôtel presque, ces découvertes impromptues.
Oui, parce que c'est ce qu'on appelle du storytelling. Ouais. Donc on va pouvoir raconter à nos clients beaucoup d'histoires, dont celles que vous venez de raconter. Et aussi le fait, vous parlez de la lumière et de la mer, mais l'hôtel aujourd'hui, avant quand nous avions ce parking à l'extérieur, derrière, dans la cour, on ne le voyait pas. Donc, il était complètement fermé. Donc, aujourd'hui, on a complètement ouvert cet espace-là. Donc, vous avez la lumière qui rentre, qui va depuis la croisette de la mer jusqu'au jardin. Donc, ça donne quand même une impression beaucoup plus, je dirais, somptueuse de l'endroit.
C'est ça. Une perspective, l'expérience du luxe, l'expérience du beau. Il s'agissait de frapper fort, j'imagine, aussi face à la concurrence. Déjà l'attente et la concurrence ensuite.
Oui, mais c'est normal, c'est une bonne chose d'avoir une concurrence qui est...
Une saine concurrence, vous allez me dire.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et on sait qu'aujourd'hui, on est en concurrence, mais non pas seulement avec nos hôtels à Cannes, mais aussi à Monaco, qui n'est pas très loin, et puis d'autres destinations dans le monde où une clientèle très haut de gamme va décider de prendre son jet privé, d'aller soit à Cannes, soit à Monaco, soit à Biarritz. Et là, on crée encore une fois une nouvelle destination, donc c'est important.
Devenir la destination, le prix d'une chambre avec vue mer à partir de 1 300 €, je sais que c'est grossier de parler de chiffres, mais on est sur cet ordre de là.
À peu près, oui.
À peu près. Bon, dans tous les cas, il y a d'autres ouvertures qui sont très attendues et à chaque fois peut-être un peu marquées d'histoire. En tout cas, il y a toute une histoire à raconter autour. On va voir ça avec vous, Nathan Cocampo. D'autres ouvertures très attendues, ne serait-ce qu'en Europe, mais pas que.
Oui, il est d'ores et déjà annoncé comme la nouvelle pépite mondiale de l'hôtellerie, le Raffles London at the OWO. Le lieu était fermé depuis 1996 et il ouvrira spécialement pour le couronnement du roi Charles III en mai prochain. 120 chambres et suites au sein d'un chef-d'œuvre architectural, Old War Office, bâtiment autrefois habité par les hommes d'État et les espions les plus célèbres de Grande-Bretagne. Churchill, mais aussi Ian Fleming, le créateur de James Bond, y ont posé leurs valises. De nombreux films 007 ont même été tournés dans le bâtiment, comme le dernier opus No Time to Die. Le nouveau palace, avec son imposant escalier d'honneur, comptera entre autres 9 restaurants et 3 bars. On continue avec une institution fermée depuis plus de 15 ans, l'hôtel Astoria de Bruxelles, qui devient un Corinthia Hotel. Inauguré en 1909, le bâtiment est situé à 2 pas du Palais Royal, 125 chambres et suites sur 19 000 mètres carrés de surface et une décoration autour des tableaux des grands peintres flamands. Là aussi, des invités de marque comme Salvador Dali ou Maurice Chevalier. Les travaux de rénovation sont presque terminés avec un ouvrage de taille, la restauration à l'identique de la grande verrière principale haute de 15 mètres. Le palace devrait rouvrir en fin d'année.
Et puis, c'est très attendu, ça se passe à Rome. Rome avec de grosses ambitions sur le segment des palaces.
Cet été, le Bulgari Hotel Roma ouvrira ses quelques 110 suites à quelques minutes de la place d'Espagne et en face du mausolée d'Auguste, premier empereur romain. Au programme, terme de 1000 mètres carrés, une décoration référence à l'héritage romain et une bibliothèque dédiée à la joaillerie. Rome, qui cherche à attirer une nouvelle clientèle, une dizaine de palaces sont en construction ou en rénovation dans la capitale.
Beau projet, merci Nathan Cocampo. Donc il faut une histoire et des noms, donc direction le Festival de Cannes.
Tout à fait. Le 16 mai.
Le 16 mai, l'ambition, c'est ça, parce qu'il y a eu cette parenthèse pendant un certain temps, ce manque à gagner, mais sans doute ça valait le coup. J'imagine que tout est complet déjà et que c'est verrouillé pour le festival.
C'est bien parti.
C'est bien parti dans tous les cas. Les expériences, quelles seront-elles? Parce qu'on ne raconte pas qu'avec une résidence, qu'avec une piscine, qu'avec un jardin. Il y a aussi tout ce qui est spa, restaurant. Comment ça se raconte au niveau du Carlton de Cannes?
Vous avez, durant votre séjour, la possibilité d'avoir, au niveau de la restauration, des expériences différentes. On a un restaurant Rouya, qui est un restaurant de cuisine turque, qui est une chaîne de restaurants assez connue. Le Riviera, qui était l'ancienne brasserie Carlton, qui va offrir une restauration beaucoup plus continentale, mais aussi méditerranéenne. Le Carlton Beach Club, qui, lui, finalement, a réouvert il y a 2 ans, qui a très bien fonctionné, où là, vous avez toute une cuisine aussi de autour du poisson, de la mer. Le spa, vous avez aussi une salle de fitness. Donc, vous avez tout un environnement qui fait que vous pouvez passer la journée, 2-3 jours. Et puis ensuite, il y a toutes les expériences que l'on va créer avec nos concierges autour de la ville de Cannes et des alentours.
Et puis, il y a des petites choses aussi, je me permets, notamment la table du chef dans le Riviera restaurant, qui est juste devant les portes coulissantes. Et en fait, derrière ces portes coulissantes, il y a les cuisines. Donc les portes s'ouvrent et se ferment et on voit les cuisines, on a accès aux cuisines juste devant notre table.
Au plus près du chef et au plus près de cette expérience, vous le savez particulièrement, vous avez une autre casquette quand on parle aussi du Balmain, du spa Balmain à Paris. Il y a toute cette expérience à raconter à la clientèle.
Oui, mais aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, c'est pas seulement une chambre avec des restaurants, c'est aussi toute l'expérience que le client souhaite, souhaite vivre et les meilleurs souvenirs finalement sont autour de cela. C'est-à-dire que dans le monde du luxe, vous allez acheter un beau sac ou une belle montre, ça va durer en général pas trop longtemps. Puis ensuite, peut-être qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous ne vous rappelez plus de la montre que vous portez ou du sac que vous avez. Par contre, l'expérience que vous allez vivre dans un hôtel, ça reste encore très longtemps dans la mémoire.
Bon, je vais vous faire mentir, on peut ne pas se lasser de nos sacs et du service, toujours plus de service au bon marché. Collector Square vous permet de prendre soin de vos pièces vintage. Reportage Eva Jaco.
C'est au bon marché, à l'occasion de l'exposition Comme un poisson dans l'eau, que Collector Square, acteur du luxe de seconde main, a installé son spa pour les accessoires. Ici, on vient faire diagnostiquer et prendre soin de son sac à main.
On voit voilà, quelques petites rayures, des signes de sécheresse par ici. Sur la base, voilà, quelques petites traces.
Cette iconique Kelly Dermès est bichonnée avec un traitement spécifique pour son cuir box. D'ailleurs ici, chaque sac a un traitement personnalisé. Soins, massages, nettoyage, c'est un vrai centre de remise en forme pour accessoires. L'idée, sensibiliser et expliquer aux clients les bonnes pratiques d'entretien des cuirs. Ozana Orlowski, fondatrice de Collector Square.
Pour l'entretien d'un sac, il y a deux grands axes. Il y a le premier axe, c'est comment entretenir et conserver son sac chez soi, donc les conditions finalement pour l'entreposer et le conserver. Et le deuxième axe, c'est comment l'entretenir donc avec des produits spécifiques, un protocole spécifique, sachant qu'il y a différents produits pour les différents types de cuir.
L'engouement pour les sacs de luxe d'occasion ne fait que croître. Chez Collector Square, l'an dernier, le panier moyen était de 4 580 €. En plus d'un objet intemporel, les clients sont à la recherche de sacs qui représentent une vraie valeur d'investissement.
On a le sentiment aussi qu'ils vont préférer allouer un budget plus important à des pièces intemporelles, qui sont peut-être plus chères, mais qui ont une durée dans le temps, que des objets de consommation avec des cycles plus courts.
Le mois dernier, Collector Square a vendu sa pièce la plus importante, un Birkin Himalaya de 25 cm à 160 000 €.
Ici, 80% de la sélection sont des sacs Hermès, marque la plus vendue chez Collector Square. Des pièces iconiques, convoitées, avec un savoir-faire d'excellence et une vraie valeur d'investissement.
Iconic Business, le luxe by BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business, Alexia Borg.
Onboarding, e-learning, expérience collaborateur, recrutement des talents, les nouvelles technologies bouleversent la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, je vous propose de découvrir comment tirer profit des outils les plus innovants pour optimiser notre façon de travailler. Pour tout comprendre, retrouvez-moi tous les week-ends dans Tech RH.
Tech RH avec Alexia Borg, samedi à 18h et dimanche à 9h30 sur BFM Business.
Votre rendez-vous Tech RH avec Open Media, l'agence qui booste votre communication digitale.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
BFM Business. La France a tout pour réussir.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.
Bon, c'est toujours une histoire de montée en gamme et de course à l'investissement pour le Carlton Cannes. C'est aussi stratégique dans le portefeuille Diageo. Il y a un héritage spectaculaire et ça rentre dans la galaxie Regent, c'est ça?
Oui, tout à fait. Nous avons dans le groupe Diageo, c'est 6000 hôtels, 17 marques à travers le monde. Et nous avons le pôle Luxury and Lifestyle. Nous avons... Nous avons acquis il y a pas très longtemps Six Senses and Regent. Donc Six Senses, Regent, Intercontinental et Kimpton sont les quatre marques qui représentent le pôle luxe du groupe.
Ouais, Sarah, c'est un nom.
Il y a une stratégie bien définie par rapport à ça.
Bon, et des emplacements. Il est toujours question d'emplacements aussi, un héritage spectaculaire. Je le disais, Hong Kong, Londres, New York, Dubaï, Paris, Singapour. Direction donc Cannes avec cette ouverture du mois, de l'année, selon Christophe Laure, du siècle sans doute. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Christophe Laure. Là encore, on va parler d'expérience, de vos expériences et peut-être les émotions qu'on a sur certains instants, sur certains moments avec le luxe. Dans votre trio, en tête, une raquette de paddle. J'imagine pas n'importe laquelle. La vôtre.
Ou Wilson.
Voilà, bon quand même. Bon, on reste dans l'accessible pour une adresse. Vous n'avez pas choisi Cannes, vous avez choisi Madrid.
J'adore Madrid.
Vous adorez?
Je suis tombé amoureux de mon épouse, de la ville et du pays à 30 ans. Et depuis, je suis fidèle. J'adore.
Bon, c'est une bonne réponse. Et plus étonnant encore, votre service militaire, c'est une expérience luxe, le service militaire?
Ah oui.
Oui, vraiment?
On apprend beaucoup de choses. Mais j'étais maître d'hôtel des officiers supérieurs sur la Jeanne d'Arc. Magnifique photo.
Un croiseur français, et, Jeanne d'Arc.
Ah oui, porte-hélicoptère, extraordinaire. On faisait le tour du monde à l'époque. C'était l'ambassadeur ou l'ambassadrice flottante du pays, et des expériences inoubliables dans 35 pays, 35 ports, et c'était du vrai luxe.
Et c'est resté votre attachement donc ensuite pour votre parcours, pour votre métier?
Oui, tout à fait. Le voyage, la découverte des autres, les cultures, les hommes, les femmes, la différence, et puis surtout l'enrichissement.
Merci Christophe Laure, directeur régional Europe du Sud, IAG, groupe opérateur du Carlton Cannes, et cette ouverture exceptionnelle. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Merci Sarah Durand, Iconic Business. On vous retrouve bien évidemment sur le site et les réseaux sociaux. Dans un instant, Art Paris, la foire du printemps, mais tout de suite, l'iconique capsule. La maison d'édition Assouline se lance dans le métaverse.
Après Ibiza, Bohémia, Capri, Dolce Vita ou encore Amalfikos, c'est maintenant Metaverse Dream qui rejoint à la très chic collection Travel des éditions Assouline. Place aux destinations du futur qui ne sont plus seulement physiques, mais virtuelles, voire irréelles. Écrit par l'entrepreneur Paul Dawalibi et l'investisseur Grégory Landegger, ce livre nous plonge dans cet univers révolutionnaire qui mêle mode, architecture, design ou encore cinéma. On retrouve le style et la patte Assouline avec des photos, des images et une alternance de citations de personnalités phares du secteur comme Steve Jobs, Tim Cook, l'écrivain Arthur C. Clarke, Jensen Huang de Nvidia ou encore Tim Sweeney. En parallèle, Assouline a ouvert une boutique éphémère sur la plateforme Decentraland et on y accède en scannant le QR code sur la couverture du livre. Une expérience qui reprend tous les codes des boutiques Assouline, les murs rouges ou encore le bar que l'on trouve dans la boutique de Londres. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il suffit de pousser une porte au fond de la boutique qui nous emmène sur Fastex pour découvrir la genèse du métaverse.
Peut-être iconique business dans le métaverse, on verra. Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Valentine Lecêtre, co-directrice d'Art Paris, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Guillaume Piens, commissaire général de la foire. On va revenir en détail avec vous sur cet événement capital. Et Nathan Cocampo, avec votre sélection justement, on va parler du marché de l'art, 16 milliards de dollars de ventes en 2022.
Oui, plus de 16 milliards de dollars, c'est les peintures, sculptures, photographies, estampes connaissent un faible ralentissement de 3% environ. La Chine recule, les États-Unis explosent. Alors si le montant des ventes est un peu plus faible qu'en 2021, les volumes, eux, sont à un niveau historique avec plus de 700 000 lots vendus dans le monde. Les NFT, par contre, alors là, ça, ce qui avait fait fureur à leur arrivée sur le marché, connaissent aujourd'hui une chute spectaculaire. On passe de 230 millions de dollars en 2021 à seulement 14 millions l'année dernière.
Le soufflet est un peu retombé quand même, côté NFT.
Alors, on a beaucoup parlé des nouvelles étoiles du guide Michelin, mais peut-être un peu moins de celles délivrées en Belgique et au Luxembourg. Pas de nouveaux 3 étoiles, mais un restaurant qui s'illustre nettement et gagne une 2e étoile. Le Beaux-Arts Restaurant du chef arménien Karen Torossian, décrit comme une des plus belles tables de la capitale, donc de Bruxelles. La cuisine est française, autour du pigeon d'Anjou ou des tourtes de pommes de terre farcies. Le menu 6 services est à 155 euros.
Et vous avez une adresse? Le manoir le plus cher au monde.
Oui, un bien à vous proposer, The Holm. Prix de vente, 283 millions d'euros. S'il est atteint, ce sera un des biens les plus chers jamais vendus. Le manoir d'1,6 hectare est situé au bord du lac de Regent's Park à Londres, construit par l'architecte Decimus Burton. Une propriété saisie à un membre de la famille royale saoudienne pour rembourser un prêt de 180 millions d'euros. Et enfin, je vais vous parler d'un piano bien particulier, créé par la maison Alpange, design épuré, à la fois objet de déco et instrument technique. Ce piano du futur adapte ses sonorités au lieu où vous vous trouvez. Pas de marteau donc qui frappe les cordes, mais un capteur optique HD. Ce piano peut ainsi modifier les sons et surtout enregistrer en temps réel ce que l'on joue pour ensuite l'envoyer à ses proches. En noyer et pesant plus de 100 kilos, il est en vente à 35 000 euros.
Bon, tous les puristes vous détestent à présent. Merci Nathan Cocampo. On retrouve dans Les Désirables cette semaine Valentine Lecêtre, co-directrice d'Art Paris, ainsi que Guillaume Piens, commissaire général de la Foire. On en parlait avec Nathan. Le marché de l'art, Paris, place forte du marché de l'art contemporain, donc Valentine Lecêtre.
Oui, tout à fait.
Et en quoi c'est une place forte? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour l'art à Paris?
Tu veux que j'enchaîne?
Bien sûr.
Non, mais on vit un moment quasiment historique. On vit un moment pour la place de Paris. Vous savez qu'on a eu des concurrents féroces, Londres, Berlin dans les années 90. Et aujourd'hui, Paris connaît son moment. C'est-à-dire que Paris est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y a, déjà l'arrivée de ces fondations privées, Pinault, Louis Vuitton, donc qui a changé l'image aussi. Mmh. Et surtout l'arrivée de galeries étrangères qui s'installent à Paris, mais des galeries vraiment qui viennent de toutes les parties du monde. Une galerie brésilienne qui s'installe par exemple Place des Vosges, deux galeries qui vont s'installer Place Vendôme, une coréenne et une galerie allemande. Enfin, on n'a jamais vu autant de galeries qui viennent de l'étranger ouvrir. Et par ailleurs, il y a aussi toutes les galeries de la place de Paris qui sont en train de faire des efforts de rénovation, d'ouverture de nouveaux lieux. Donc, on est vraiment dans toutes les nuages qui entourent en ce moment. On vit dans un contexte très tendu, disons géopolitique. Mm-hmm. Mais le seul rayon de soleil, en tout cas pour le marché de l'art ici en France, c'est que effectivement, tous les regards sont
tournés
vers Paris. Ça, c'est un phénomène nouveau, donc on s'en réjouit, en fait.
Il y aura la Fashion Week et il y aura tous ces événements autour de l'art. Art Paris, au Grand Palais éphémère, comment vous présenteriez ce rendez-vous, Valentine?
Alors, c'est un rendez-vous un petit peu atypique, quelque part, dans le monde de l'art. On a choisi de faire quelque chose qui était plus ouvert, avec toujours des découvertes sur Art Paris. Donc, c'est vrai que nous sommes une société familiale. Mon frère et moi sommes directeurs de Art Paris. Et nous ne venons pas du secteur du marché de l'art. On vient du monde des salons, même si on est amoureux de l'art. On a souhaité pouvoir ouvrir les portes à des gens qui n'étaient pas forcément des collectionneurs, mais des gens qui devenaient collectionneurs. Donc, ça ouvre la porte à des visiteurs que nous n'avions pas avant dans les salons et qui deviennent des aficionados. Donc, je pense qu'on a cette petite carte en plus, plus chaleureuse peut-être, et différente des autres fois.
C'est une porte vers la connaissance de l'art, c'est une œuvre de pédagogie. Quel est l'ADN d'Art Paris?
L'ADN, je vais le définir, en fait. Je dis qu'on est régional, national et cosmopolite.
Partout.
Avec un adjectif peut-être que je pourrais mettre défricheur, en fait. Voilà, donc c'est vraiment
défricheur, dénicheur,
talent, explorateur. Donc on a cette volonté d'être toujours dans la découverte. Et c'est vrai que on est peut-être par rapport à notre rendez-vous qui est très connu au mois d'automne, enfin l'automne, qui a changé de nom mais et de propriétaire. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus axé peut-être sur l'illustration de la scène française. On a 60% de galeries françaises et 40% de galeries étrangères. Mais néanmoins, la partie internationale, on a des galeries qui viennent de 25 pays, des galeries qui viennent de très loin, hein, d'Ouganda cette année, de Chili, Colombie. Donc on voyage aussi chez nous.
Mais c'est ça la patte de cette foire.
Je pense que c'est l'alchimie qu'on a d'être à la fois dans le global et le local. C'est exactement l'articulation que j'ai souhaité, en fait, quand Valentine et son frère m'ont recruté en 2012. C'est bien de rappeler l'histoire. C'était une foire qui avait effectivement de très bonnes dates et une très belle verrière, qui était celle du Grand Palais. Et en même temps, il lui manquait une âme. Donc, je peux dire que je lui, en tout cas, avec tout ce travail qui a porté ses fruits. Et justement, vous parliez de désir. Et pour moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le désir que la puissance.
La désirabilité, justement, de ce rendez-vous de l'art.
Le succès d'Art Paris, qui attire quand même 69 000 visiteurs. 71 000
les enchères, donc vous ferez beaucoup plus cette fois.
Voilà, mais j'en sais rien, mais en fait, c'est pas très grave, mais on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent nous voir et beaucoup de jeunes. Donc, on n'est pas vu comme un lieu uniquement, on est plutôt dans l'élitisme pour tous, si je peux dire. Voilà. Je me bats beaucoup contre cette, effectivement, perception de l'art contemporain qui exclut, alors que nous, on est beaucoup plus inclusif. Mais effectivement, on a de plus en plus de succès. Donc, ça veut dire, quelque part, moi, j'allais dire que nous, on s'intéresse aux 99% et d'autres fois aux 1%. Voilà.
Je vais même préciser une petite anecdote. C'est vrai que notre première année avec Guillaume, j'ai noté que nous avions fait tous les deux 21 voyages la première année pour aller chercher, découvrir des galeries qu'on ne connaissait pas. Et voilà, ce défrichage, c'est l'humilité très travailleuse avec Guillaume, on la connaît bien.
Bon, ce sont les 25 ans et un parti pris. Les thématiques, engagement et l'exil. Ça veut dire que c'était un événement et l'artiste, de manière générale, doit être à présent engagé.
Alors, c'est plutôt une volonté de parce qu'on est, effectivement, on est soucieux de se différencier. Enfin, il y a une uniformisation de beaucoup de choses.
Et au milieu de l'offre aussi, de la
voilà, donc,
de l'offre.
En fait, ces partis pris que nous prenons, qui d'autre part étaient plutôt sur des axes, j'allais dire, de scène géographique, j'allais dire. Voilà, on est allé en Russie, en Chine, en Corée, etc. Mais depuis, je pense que c'est la pandémie qui a changé notre regard. Et je me suis dit que aussi, il y avait une nouvelle situation dans le monde qui avait des enjeux et que il fallait qu'on sorte peut-être aussi de notre bulle de l'art contemporain et qu'on regarde le monde aussi. Et donc du coup, on a commencé en 2022 en se penchant sur l'art et l'écologie, l'environnement, en développant une éco-conception de foire qui n'a jamais été réalisée jusqu'à présent. Donc on est allé jusqu'au bout de l'exercice et qui d'ailleurs ça est reconduit pour 2023. Et de l'autre côté, c'est vrai que je trouvais intéressant de parler d'exil et d'engagement parce que ça traduit bien la réalité de notre monde aujourd'hui. Enfin,
c'est une fenêtre sur le monde, c'est aussi un lieu de business, je dirais grossièrement, avec une présence forte aussi. C'est une vitrine pour toutes ces galeries, 134 galeries, notamment avec cette présence forte des galeries françaises, des ventes de plus en plus importantes et c'est aussi un lieu de contact.
Évidemment, c'est les deux. Disons que dans une foire, en fait, il y a trois critères de réussite pour moi, pour un exposant, enfin une galerie. D'abord, c'est de vendre à des nouveaux contacts, à des contacts intéressants et pas de vendre à ses propres clients.
À ses propres clients.
Après, le deuxième critère, c'est effectivement d'avoir des rencontres avec des grands collectionneurs, des fondations privées, des musées et qui débouchent sur des commandes, sur des choses, effectivement, des projets beaucoup plus ambitieux. Et le troisième, effectivement, critère de réussite dans l'ordre, c'est la communication parce que la visibilité, c'est essentiel. On est dans un monde où la communication est tout à fait essentiel. On est un lieu à la fois de promotion et un lieu de où on vend, vous voyez.
Le juste équilibre et une belle feuille de route pour cette édition et ses 25 ans d'Art Paris au Grand Palais éphémère. Merci Valentine Lecette, co-directrice d'Art Paris. Merci Guillaume Piance, commissaire général de cette foire. Un rendez-vous à ne pas manquer. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.